Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Mohamed Oumfa.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Focus Sahel, l'émission qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au sommaire de cette édition, gros plan sur les effets de la fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger. À Parakou, ville béninoise et carrefour névralgique pour le transport des hommes et des marchandises entre les deux pays. Transporteurs et commerçants connaissent toujours des baisses, voire des arrêts d'activité malgré des signes de réchauffement entre Niamey et Cotonou. Entre résilience et activité de survie, les populations et opérateurs économiques s'adaptent comme ils peuvent. À suivre le reportage de Rodrigue Azinombe depuis le Bénin et l'analyse d'Idriss Linge, directeur des rédactions de l'agence Ecofin qui se trouve actuellement à Cotonou. Nous irons ensuite au Mali, précisément dans la région de Badiangara, où plusieurs personnes ont trouvé refuge et vivent dans des conditions difficiles du fait de la multiplication des attaques terroristes. Le fait marquant de la semaine, c'est l'annonce par les autorités tchadiennes de la fin des accords militaires liant Paris et N'Djamena. Nous en parlerons avec Judas Alaoundoum, directeur de publication du journal Le Visionnaire à N'Djamena. Nous vous emmènerons enfin au Burkina Faso, pays qui veut atteindre l'autosuffisance alimentaire d'ici à 2025 et où des grands moyens sont dégagés au profit des producteurs. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage de découverte et d'information dans le Sahel. Malgré la levée des sanctions de la CEDEAO imposée pendant plusieurs mois après le coup d'État ayant renversé le président Mohamed Bazoum, le Niger refuse de rouvrir sa frontière avec le Bénin, accusant son voisin d'abriter des bases françaises qui entraîneraient des terroristes, ce que Paris comme Cotonou réfutent. Cette décision a évidemment des conséquences. À Parakou, troisième ville du Bénin, passage obligé pour les marchandises et voyageurs en direction du Niger. Transporteurs, chauffeurs routiers et commerçants tirent le diable par la queue. Reportage de Rodrigue Azinombe de Canal 3, une station partenaire de VOA Afrique à Parakou.
J'ai resté à la maison pendant au moins 10 mois.
C'est le calvaire que vivent les chauffeurs routiers de la partie septentrionale du Bénin. Même son de cloche au niveau de l'association des conducteurs. Cette fermeture crée des situations difficiles à gérer au quotidien et les transporteurs ne s'attendaient pas à vivre pareil calvaire.
90% des conducteurs sont à la maison depuis un an. Il y a même d'autres conducteurs que les enfants n'ont même pas pu aller à l'école à cause de la fermeture de la frontière.
Parakou, c'est aussi un carrefour névralgique pour les compagnies de bus transportant des passagers entre les deux pays. Avec la fermeture de cette frontière, impossible pour les bus de rallier la rive nord du fleuve Niger, servant de frontière naturelle entre les deux pays. Les solutions proposées aux passagers sont périlleuses et parfois dangereuses.
La stratégie, c'est que, par exemple, si un passager prend un bus pour le Niger, pour une des villes du Niger, donc arrivé à Malanville, les passagers sont obligés de prendre un ZEM, profitant de la fermeture des frontières, il sait qu'il n'y a pas d'autre solution, celui qui va amener les passagers à la rive. Donc, ils vont leur faire un prix exorbitant pour l'amener à la rive.
Les voyageurs, victimes collatérales de cette tension politique entre les deux pays, s'adaptent comme ils peuvent, faisant appel au système D, solution obligatoire pour rejoindre la famille sur l'une ou l'autre rive, ou encore pour faire ses affaires.
Donc, c'est arrivé au niveau du fleuve qu'il y a de problèmes. Il y a d'abord les policiers qui sont là, et puis on vous fouille. D'abord, on vérifie les pièces. Si tu es étranger, Donc ils vont fuir presque tout ce que tu as.
Au grand marché de Parakou, au marché Arzeké, les commerçants faisant la navette entre les deux pays ne cachent pas leur peine. La fermeture de la frontière a un impact négatif sur les activités commerciales. Les prix augmentent, les circuits d'approvisionnement sont de plus en plus compliqués aux grandes dames des commerçantes qui ne savent plus à quel saint se vouer.
Vraiment, c'est un peu difficile pour nous. Et depuis qu'ils ont fermé la frontière, c'est un peu difficile pour nous de trouver la marchandise.
Qu'ils soient transporteurs, commerçantes, voyageurs, artisans, l'unanimité se fait autour d'un seul point, que les deux chefs d'État s'entendent pour rouvrir les frontières pour le bonheur des populations.
Ce que nous demandons maintenant au président, c'est de regarder et faire avec nous pour qu'on ouvre la frontière.
Nous espérons l'ouverture de la frontière.
Du côté des autorités, si l'on n'a pas souhaité réagir, l'assurance est donnée que des négociations avancées sont en cours. La nomination par le Niger d'un nouvel ambassadeur au Bénin il y a quelques jours est perçue comme le signe avant-coureur d'une décrispation de la situation avec au bout, on l'espère, la réouverture prochaine des frontières.
Merci beaucoup, Rodrigue, pour cet excellent reportage. Rodrigue Azinombe, que nous retrouvons actuellement au Bénin. Salut, Rodrigue.
Oui, bonjour.
Voilà, merci d'être avec nous. Alors, on vient de suivre votre reportage. Dites-nous d'abord, Rodrigue, à titre personnel, comment est-ce que vous avez vécu, senti et ressenti la situation sur le terrain en rapport avec, justement, cette fermeture des frontières entre les deux pays?
Écoutez, c'est une désolation au niveau des deux parties parce que, vous savez, le Bénin et le Niger sont deux peuples frères, deux peuples qui sont voisins et qui entretiennent de bonnes relations depuis la nuit des temps. Donc cette situation, qui est d'abord une situation politique, a été quand même mal vécue, que ce soit au niveau des populations béninoises qu'au niveau des populations nigériennes, parce qu'en quelque sorte, ce sont les activités qui tournent au ralenti. Ce sont deux économies qui pâtissent de cette situation, en quelque sorte. C'est difficile à expliquer, c'est difficile à comprendre que deux pays qui commercent ensemble, deux pays qui sont frères, deux pays qui font beaucoup de choses ensemble puissent arriver à cette situation. Le simple citoyen ne comprend pas et en appelle très souvent à la bonne conscience ou au bon sens de cette étape pour qu'une solution soit quand même trouvée pour régler très vite cette situation. Une situation qui dure depuis des mois.
Voilà. Alors, Rodrigue, dans votre reportage, vous avez évoqué le fait que les opérateurs contournent cette mesure de fermeture des frontières entre les deux pays. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet aspect précis?
Écoutez, c'est une économie parallèle qui a été développée autour de cette fermeture des frontières, hein, parce que normalement, si la frontière était ouverte, lorsque vous pouvez traverser, vous contrôlez les papiers au niveau du poste juste à poser de la douane entre les deux pays, vous traversez, pas de souci, il y a un pont qui relie les deux parties, vous traversez. Mais depuis la fermeture, vous avez les pirogues qui font une bonne affaire parce que lorsque vous arrivez à Malanville, qui est du côté béninois, vous traversez, aller de l'autre côté, il faut prendre la pirogue pour traverser le fleuve Niger qui sert de frontière naturelle entre les deux pays. Donc il faut payer les pirogues, il faut payer les passeurs qui sont là, qui aident à transporter les bagages dans les pirogues et à les décharger de l'autre côté. Il faut aussi payer aussi les policiers qui prennent beaucoup plus côté nigérien, qui prennent un peu d'argent pour pouvoir laisser passer. Donc il y a cette économie parallèle qui ne dit pas son nom. Il y a aussi les conducteurs de taxi-moto qui sont de l'autre côté, qui vont vous transporter vers la ville de Gaya, qui est l'opposé de Malanville côté béninois, à Gaya côté nigérien. Donc il y a toute une économie parallèle qui s'est organisée autour de cette fermeture. Ça arrange beaucoup de personnes, mais malheureusement, ça désavantage une grande partie de la population, une grande partie de ceux qui ont l'habitude de faire le trajet entre le Bénin et le Niger.
Alors, Rodrigue, on sait que, et vous l'avez évoqué dans votre reportage, on sait qu'il y a des négociations en cours hein, pour permettre justement de normaliser les relations entre les deux pays, effectivement. Est-ce que, pour terminer, vous pouvez nous en dire plus sur l'état des négociations? Et on imagine, là-bas au Bénin, que les gens attendent avec impatience que la situation se normalise.
Bien évidemment, on attend que la situation se normalise. On sait que côté béninois, un ambassadeur avait été nommé avant, tout juste avant que la crise ne commence entre les deux pays. Gilda Savonka, un ancien député, Il a récemment présenté sa lettre de créance. Et puis côté nigérien, après quelques tergiversations, un ambassadeur a été nommé côté nigérien pour le Bénin. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une avancée. Les négociations se déroulent hors des caméras, bien évidemment. S'il n'y avait pas eu cette annonce, cette avancée, on n'aurait pas eu la nomination d'un ambassadeur côté nigérien. Donc on attend son installation. Ça suppose que dans quelques semaines, dans quelques mois peut-être, il y aura encore d'autres avancées et peut-être on aboutira, peut-être, hein, qui sait, avant la fin de l'année ou peut-être au début d'année 2025 à l'ouverture de la frontière, et ce qui va permettre aux deux peuples de retrouver cette fraternité, de retrouver cette liberté de circulation.
Oui, bon, alors, immédiatement après,
qui avait lieu avant de cette
téléphone.
Décision politique.
Merci beaucoup, Rodrigue Azinombe. Vous êtes un correspondant de VOA Afrique là-bas au Bénin. Merci beaucoup pour votre excellent travail. Alors, nous avons la chance d'avoir Idriss Lynch, qui est journaliste économique. Il est directeur des rédactions désormais de l'agence Ecofin. Nous l'avons en direct de Cotonou. Salut, Idriss Lynch. Voilà. Alors, on vient de le suivre, Idriss Lynch. La situation reste relativement tendue entre le Bénin, malgré quelques signes de décrispation. La frontière reste fermée entre le Bénin et le Niger. Est-ce que vous qui vous trouvez là-bas à Cotonou, est-ce que vous avez senti un impact de la fermeture des frontières sur le quotidien des populations et sur l'économie béninoise?
Cotonou est situé vraiment à 900 km au sud de la zone de Malanville qui a été décrite par le correspondant de VOA. Ce qu'on a pu observer quand même depuis une certaine période, c'est qu'à l'époque où la frontière était ouverte côté nigérien, je rappelle que c'est le Niger qui a fermé sa frontière dans le Bénin, il y avait beaucoup plus de camions sur le boulevard de la Marina qui allaient vers le port. On avait vu qu'avec la fermeture des frontières, le soir surtout, on ne retrouvait plus ces camions. Donc le reportage qui dit que les chauffeurs et les transporteurs qui vivaient de cette activité-là sont exactement en difficulté depuis quelque temps. Mais grosso modo, l'économie béninoise souffre d'autres types de problèmes, mais pas forcément de la crise de la fermeture de la frontière par l'univers, parce que le plus gros client du Bénin, même dans le commerce formel, c'est pas l'univers, c'est l'Asie, c'est les pays asiatiques. Mais même en Afrique, dans la zone CDAO, le plus gros client du Bénin, c'est le Nigeria ou encore le Togo. Donc peut-être qu'il y a effectivement des centaines de personnes qui souffrent de la situation, mais globalement, l'économie n'est pas impactée parce que le Niger n'était pas forcément un consommateur ou un fournisseur de produits pertinents pour le Bénin.
Alors, Idriss Lynch, cela fait maintenant plus d'un an que cette mesure dure. Si l'on note que du côté béninois, les opérateurs économiques s'impatientent, à Niamey, par contre, on traîne les pieds pour lever cette mesure. Est-ce qu'il faut considérer que il n'y a pas véritablement d'impact du côté du Niger? Pourquoi est-ce que le Niger ne se gêne pas, en quelque sorte, à lever cette mesure?
Bon, je pense aussi que c'est parce que le Niger a trouvé d'autres palliatifs et d'autres corridors. Niamey a l'avantage d'être connecté à plusieurs corridors, notamment qui peuvent lui permettre de mener les opérations de commerce extérieur par transport terrestre via le port de Lomé au Togo. Donc à partir de ce moment, je pense que Niamey a réussi à contenir le risque de représenter le Niger avec le Togo. Je pense que ça fait 45 ou 50 km de plus. Bon, c'est pas plus grand que ça. Donc du coup, les gens ont dû s'adapter. C'est pour ça qu'ils peuvent fermer la frontière côté Bénin sans beaucoup s'en soucier. Mais le principal point où le Niger voulait qu'il y ait une résolution, c'était celui de l'exportation du pétrole. Une solution a été trouvée. Malheureusement, on n'a pas fait beaucoup de promotion lorsque la chose a été réglée. Aujourd'hui, le pétrole nigérien, selon les sources constantes que nous avons lues, continue de passer par le port, par la zone d'évacuation au niveau du littoral béninois. Et de ce point de vue, je pense qu'ils se sont mis d'accord. Maintenant, on ose croire que lorsque on nomme déjà des ambassadeurs, le Niger va ouvrir sa frontière. Je le rappelle une fois de plus, c'est le Niger qui a fermé sa frontière. Le Bénin n'a pas de problème, il a réouvert, si vous voulez le dire, il n'y a pas de souci.
Alors, Idriss Linge, notre reporter, évoquait le fait que sur le terrain, les opérateurs économiques, les transporteurs et autres commerçants ont trouvé les moyens de contourner cette mesure, et ce qui crée effectivement des activités informelles. Quelles sont les conséquences éventuelles de cette situation, selon vous?
Le commerce informel n'est pas quelque chose de nouveau au Bénin. Selon une récente enquête de la Direction nationale des statistiques, il existe sur le territoire béninois l'équivalent, en 2023, il existait l'équivalent de 211 points de commerce informel. Et on estimait, selon toujours les mêmes statistiques, que le total, par exemple en 2023, le total des importations non enregistrées du Bénin atteignait 995 milliards de francs CFA et le total des exportations non enregistrées atteignait l'équivalent de 818 milliards de francs CFA. Donc le commerce non enregistré est une réalité que connaît le Bénin et le Bénin essaye de combattre cela parce qu'effectivement il y a beaucoup d'activités qui ne sont pas suffisamment contrôlables. Même maintenant, si on prend dans ce commerce non enregistré, la part du Niger ne représentait pas grand-chose. Les exportations vers le Niger étaient de l'ordre de 8 milliards de francs CFA en 2023. 8 milliards, c'est beaucoup pour la centaine de personnes, ou même des milliers de personnes qui vivent à Parakou ou à Malanville, ça c'est sûr. Mais à l'échelle globale de l'économie béninoise, le problème du commerce non enregistré n'est pas seulement un problème de la frontière avec le Niger, c'est un problème de contrôle de points de passage informels sur lequel le Bénin est en train de travailler aujourd'hui.
Merci beaucoup Idriss Linge, c'est toujours un plaisir d'écouter vos excellentes analyses économiques. Merci Idriss Don, merci à tous ceux qui ont réagi sur le sujet dans nos différentes plateformes digitales. La suite, c'est dans quelques instants.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h en temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Rendons-nous au Mali pour la deuxième escale de ce voyage dans le Sahel, précisément dans la région de Badiangara au Mali. Là-bas, la multiplication des attaques terroristes affecte les populations. Plusieurs personnes fuyant l'insécurité dans leur village y trouvent refuge et ces nombreux déplacés vivent dans des conditions extrêmement difficiles. De Badiangara, la correspondance de Tidjani Ouedraogo.
La plupart des personnes qui fuient l'insécurité dans leur village trouvent refuge sur un site non loin de la ville de Badiangara dans des conditions difficiles. Sur place, Hawa s'active pour offrir de quoi manger aux enfants.
Ils sont venus attaquer notre village vers le petit soir. Beaucoup de personnes étaient encore au champ. Nous avons fui pour nous cacher dans la forêt. Plus tard dans la nuit, nous avons pris des risques pour revenir ici. Nous sommes arrivés vers 16h.
Selon le service de développement social de Badiangara, environ 600 nouveaux ménages ont été enregistrés dans la région. Les femmes et les enfants sont les plus affectés.
Les enfants que vous voyez manger sont sous ma responsabilité. D'autres sont partis au champ pour travailler. Dieu merci à la rentrée.
De nombreux déplacés à avoir tout laissé derrière eux pour fuir les attaques des groupes armés. C'est du vide depuis quelques semaines sur le site. Ils s'estiment heureux d'avoir reçu des kits.
Je suis content de recevoir les lampes solaires. Sur le site, il n'y a pas d'électricité et nous sommes exposés aux reptiles. L'autre jour, deux enfants ont été mordus par des reptiles. Avec ces lampes, on peut se débrouiller.
Sur place, l'État et ses partenaires s'activent pour venir en aide aux déplacés.
Sur ce site, Ousmane Kereta, directeur adjoint au centre de maçon pédagogique, nous parle des salles construites pour accueillir les enfants.
C'est un centre qui accueille les enfants déplacés, précisément les PDI, qui seront encadrés durant une période bien déterminée et évalués à la fin de la formation pour qu'ils soient déversés dans les écoles classiques selon leur niveau.
Face à la recrudescence de l'insécurité dans la région, les populations de Badiangara sont sorties pour réitérer leur soutien et demander aux autorités de prendre des dispositions pour sécuriser la région en proie à l'insécurité depuis des années. Tidjani Ouedraogo pour VOA Afrique, Badiangara.
Après le Mali, cap sur le Tchad, où le président Mahamat Idriss Déby Itno a assuré dimanche que son pays avait mis fin aux accords militaires avec la France sans logique, je cite, de remplacement. Le Tchad n'est nullement dans une logique de remplacement d'une puissance par une autre, encore moins dans une approche de changement de maître, a assuré le chef de l'État dans une déclaration à la presse en soulignant que cette décision n'a pas été prise de manière légère et en invoquant la souveraineté de son pays. Pour comprendre les motivations de cette décision et voir comment cela est accueilli au Tchad, retrouvons en N'Djamena Judas Alahundoum, directeur de publication du journal Le Visionnaire. Bonsoir Judas.
Bonsoir.
Voilà. Dans quel contexte intervient l'annonce des autorités tchadiennes de rompre les accords militaires avec la France? Qu'est-ce qui a bien pu, Judas, motiver le régime de Mahamat Déby?
D'abord, enfin, il faut le dire, hein, le contexte dans lequel a intervenu cette rupture, il faut le dire, le Tchad fait face aujourd'hui à plusieurs défis sécuritaires. Vous avez à l'Est Boko Haram, récemment le président y était, pour lancer l'opération Askanit fin octobre dernier. Ensuite, vous avez l'Est avec le Soudan, les conflits soudanais fait de nombreux réfugiés sur le sol tchadien, l'insécurité y règne avec la porosité de nos frontières. Au niveau du nord, à l'extrême nord, des mouvements rebelles viennent des parts et d'autres et perturbent la quiétude des gens dans cette localité. Et donc, dans ce contexte d'insécurité généralisée que le président de la République a décidé de rompre cet accord avec la France, cet accord qu'il estime obsolète, il l'a dit d'ailleurs le dimanche dernier lors du point de presse, que cet accord a été pris dans un contexte, à une autre époque où d'autres acteurs se sont impliqués. Mais aujourd'hui, le contexte a changé et les soldats tchadiens, les forces de défense et de sécurité sont capables d'assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire national.
Alors, Judas, comment est-ce qu'on réagit à N'Djamena, à cette annonce? Est-ce qu'il y a des réactions dans la classe politique, dans la presse, dans la société civile? Est-ce que d'ailleurs c'est un sujet qui préoccupe les Tchadiens?
La question préoccupe aujourd'hui les Tchadiens sur l'ensemble du territoire national, les hommes politiques, les acteurs de la société civile. Et dans la presse, le sujet alimente les conversations, les débats, parce que ça fait longtemps que la société civile manifeste pour réclamer le départ des forces armées, des éléments français, mais les manifestations sont toujours réprimées. Mais aujourd'hui, cela vient du pouvoir de chasser, de mettre fin à l'accord de coopération avec la France. Donc c'est positivement accueilli du côté de la société civile. Mais certains acteurs politiques émettent des réserves parce que cette manière de rompre cet accord sans délai suppose que c'est simplement une surenchère que le pouvoir en place fait pour peut-être avoir l'adhésion de la France, qui d'ailleurs, hein, il faut le dire, n'est pas d'avis pour l'organisation des élections du 29 décembre prochain.
Merci beaucoup, Judas Alahundoum. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Le Visionnaire à N'Djamena. Et maintenant, la note positive de cette édition, on va parler du Burkina Faso qui veut atteindre l'autosuffisance alimentaire d'ici à 2025. À peine la campagne agricole terminée, les grands moyens sont dégagés au profit des producteurs avec pour objectif d'intensifier les cultures de contre-saison. Reportage à Bobo Dioulasso de Alidou Ouedraogo.
Nous sommes ici à Bobo du Lasso, au siège de la Confédération paysanne. Venus de diverses localités, les paysans sont là pour l'achat des semences et autres intrants à un coût réduit et de réduction pouvant atteindre 50%. Moumouni Savadogo, qui est le secrétaire provincial d'une structure de distribution, se veut rassurant quant à l'objectif d'une autosuffisance alimentaire en 2025.
Pour la sécurité alimentaire, on n'aurait pas beaucoup à craindre sur là-dessus. Voilà. Et puis, la campagne cesse, commence à battre cette année. Il y a les producteurs qui sont trop mobilisés. Vous-même, vous voyez, les instances ont commencé à mise à leur disposition. C'est pour booster la sécurité alimentaire au Faso.
Venu de Diaradougou, à plus de 50 km de Bobo du Lasso, Karim Bioun est producteur. Il vient de rentrer en possession de ses intrants.
C'est que l'engrais que nous venons d'avoir aujourd'hui va beaucoup nous aider. Voilà, parce qu'au lieu d'aller payer de l'engrais à 20 000 francs sur le marché, si on le trouve ici à 12 000 francs, vous voyez, c'est vraiment un soutien, voilà, qui va beaucoup nous aider pour que la saison soit bonne aussi.
Karim Bioun nous explique comment les cultures de contre-saison vont aider les populations à manger à leur faim.
Vous allez constater à un moment donné, vous allez avoir du maïs encore sec qui va ajouter à ce que nous avons eu en saison pluvieuse. Et le riz aussi, c'est le riz de contre-saison parce que les gens pensent que le riz ici dans la province c'est Bahama seulement. Et pourtant quand vous partez à Diaradougou, les gens font du riz en contre-saison. Donc ça va beaucoup nous aider en tout cas et aider aussi voilà, la population à avoir de quoi manger aussi. Voilà.
Selon le président du conseil d'administration de la Confédération paysanne du Faso, Bassiaka Dao, cette année est particulière et les résultats vont le démontrer.
Que ce soit les semences, elles sont arrivées à temps et distribuées à temps pour permettre à chaque paysan effectivement d'avoir ses semences améliorées à temps. Que ce soit les engrais, elles sont arrivées aussi à temps pour permettre à tout un chacun d'avoir ses engrais à temps et de pouvoir continuer ses travaux agricoles. Donc nous pensons que la récolte doit être très bonne.
La production est une chose et l'accessibilité aux produits en est une autre. Et c'est sur cette question que Bassiaka Dao interpelle le gouvernement.
L'État va prendre ses responsabilités pour dire un kilo de maïs, voilà c'est le coût. Un kilo de maïs coûte tant. Un kilo de tomates coûte tant. Un kilo d'oignon coûte tant. Un kilo de ceci et cela, ça coûte tant. Mais si on laisse la liberté à tout un chacun de fixer son prix, il y a d'autres qui sont des chercheurs d'opportunités. Les commerçants sont des chercheurs d'opportunités.
Dans plusieurs localités, des milliers d'hectares de cultures ont été dévastés par les inondations et les producteurs de ces localités entendent se rattraper avec ces cultures de contre-saison. Alidou Ouedraogo, Bobo du Lasso pour VOA Afrique.
Merci beaucoup Alidou Ouedraogo pour ce reportage. Alors une information en provenance du Sahel avant de mettre fin à cette émission. 3 soldats béninois ont été tués lundi et 4 autres ont été blessés dans une attaque dans le nord-est. 3 militaires de l'opération Mirador ont effectivement perdu la vie dans une attaque menée par des individus non identifiés à Malanville, ville frontalière avec le Niger. Justement, on en parlait, a affirmé à l'agence France Presse une source militaire. 4 militaires ont été blessés et suivent des soins d'urgence selon l'officier joint au téléphone et qui a souhaité garder l'anonymat. Les militaires étaient affectés à la surveillance de l'oléoduc géant qui relie les champs pétroliers d'Agadem à la façade maritime béninoise. Selon la même source, les autorités béninoises n'ont pas encore communiqué sur cette attaque. Mais il faut dire que les attaques dans le nord du Bénin ont augmenté ces dernières années et sont attribuées par les autorités à des combattants djihadistes du groupe État islamique et d'Al-Qaïda venus des pays voisins où ils prospèrent. Voilà, c'est avec cette information que nous mettons un terme à cette édition de Focus Sahel. Merci à notre public qui nous a accompagnés dans ce voyage. Merci également à Idriss Linge qui était notre invité et qui a partagé avec nous son point de vue, son expertise sur la fermeture de la frontière entre le Bénin et le Niger. Je tiens particulièrement à saluer tous nos correspondants qui nous ont apporté les nouvelles fraîches du Sahel. Merci à Trésor Matondo et Joselle Morissin qui ont permis donc la diffusion, la production de cette émission. Un grand merci à tous et à toutes d'avoir
réagit sur nos différentes plateformes digitales. Focus Sahel, cette émission, vous pouvez la retrouver en ligne sur notre site web voafrique.com. À très bientôt sur ces mêmes antennes. Au revoir.
C'était Focus Sahel. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'une des régions les plus complexes de la planète.
Vos points de vue, vos défis, vos récits et vos contributions sont les bienvenus.
Laissez-nous vos commentaires sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.